Grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Gérard Larcher, président du Sénat et soutien de François Fillon. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle.
Bonjour Gérard Larcher.
Bonjour.
Nous vous recevons avec Christophe Jacobicine de LCI et Alexis Brezet du Figaro.
Bonjour à vous deux.
On va parler très directement de ce qui se passe autour de cette campagne présidentielle. On parle beaucoup des affaires. Cette semaine, le parquet national financier a ouvert une enquête, une information judiciaire à l'encontre, sur l'affaire Fillon, en ne citant pas nommément François Fillon, mais néanmoins, c'est quand même lui qui est concerné. C'est le coup de grâce ?
Non, je pense que c'est une séquence qui est terminée. Ce fut le temps d'une enquête préliminaire où on a tout eu quand même. Présomption d'innocence bafouée, je le rappelle. On a eu un secret de l'instruction piétiné. Et en même temps, on a eu une espèce...
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Des PV à charge dans un grand quotidien. Est-ce que c'est le secret de l'instruction ? Et puis, à l'espèce d'emballement médiatique, j'ai appris par un journal qu'il y avait une perquisition en cours au Sénat. Or, il se trouve que j'étais au Sénat à cette heure-là. Et je dois dire qu'il est temps qu'on retrouve une forme de sérénité. Voilà pourquoi je dis, il va y avoir maintenant une instruction à charge et à décharge. Et avec trois magistrats indépendants, qu'on y aille sereinement, tranquillement. J'appelle à une forme de sérénité. Vous l'avez dit vous-même, c'est contre X. Et s'il y avait eu tant de faits probants, je ne doute pas que le parquet national financier ait renvoyé directement devant le tribunal correctionnel.
Alors c'est la fin d'une séquence, mais c'est l'ouverture d'une nouvelle séquence avec potentiellement une mise en examen de François Fillon, si les magistrats qui instruisent le dossier maintenant le décidaient ainsi. Est-ce que s'il est mis en examen, il doit arrêter cette campagne ?
Écoutez, on n'en est pas là et je crois qu'on n'en ira pas là. Mais je voudrais dire une chose, parce que ce matin, je lisais ce que disait le garde des Sceaux.
Jean-Jacques Urvoas.
Oui, j'ai entendu ce que disait François Bayrou.
Alors, monsieur Urvoas dit qu'il n'y a pas lieu à trêve judiciaire.
Je rappelle quand même que la démocratie nécessite la séparation des pouvoirs. Je voudrais simplement dire que ce n'est pas moi qui ai dit que les magistrats étaient des lâches. Je crois que c'est le président de la République. Et quand je viens d'entendre illustration et défense du rôle du président de la République, je dis qu'à 54 jours du soir où devront se déterminer les électeurs, c'est le temps de la démocratie, c'est le temps de l'expression du peuple, ce qui n'empêche pas les magistrats de continuer à instruire. Mais il y a ce que j'appelle des gestes. Bien sûr, il n'y a pas de texte législatif. Il y a une forme de retenue. Et cette retenue, je l'appelle... Dans la responsabilité qui est la mienne, je suis aussi garant de la séparation des pouvoirs. Je l'ai écrit, me semble-t-il, dans votre journal, monsieur Brezé.
Alors, Alexis Brezé.
Mais ça vous choque que le garde des Sceaux intervienne maintenant pour dire finalement au juge, allez-y, faites ce que vous voulez.
J'aurais aimé qu'il nous parle, par exemple, de la présomption d'innocence bafouée ou du non-respect du secret de l'instruction. Il n'y a pas un mot là-dessus. Je ne dis pas que le garde des Sceaux ait tort. Dans l'expression de texte législatif, je dis simplement
il dit quand même
qu'il
rien...
a une émotion sélective
il dit,
ce matin.
Il dit quand même pas du tout la même chose que vous. Il dit « rien ne justifierait une trêve judiciaire ».
Eh bien, moi, je dis que la démocratie nécessite non pas une trêve, mais une retenue.
Le numéro 2 de l'État que vous êtes vient de dire des choses très fortes sur la séparation des pouvoirs. Est-ce que vous estimez que la décision du parquet d'accélérer parce qu'il y a une loi qui est en train d'être adoptée, promulguée sur le délai de prescription, est-ce que le parquet... viole la séparation des pouvoirs en essayant d'aller plus vite que la loi.
En tous les cas, je vois un parquet qui est sous la pulsion. Et vous savez, au Sénat, nous n'aimons guère la pulsion. Parce que, par nature, la pulsion est conduite à des décisions précipitées. Et je crois que, dans la tradition du Sénat, nous sommes très attachés à ce principe de séparation. Je voudrais simplement vous dire, pour les auditeurs, les téléspectateurs, que immunité, ça ne veut pas dire impunité. Immunité, c'est pour préserver la liberté d'expression du parlementaire. Mais un parlementaire peut très bien être entendu, voire être mis en examen, et il faut qu'on cesse de faire croire que nous serions sur une autre planète que les citoyens. Simplement, pourquoi l'immunité ? Pour préserver la liberté d'expression. Et l'indépendance du parlementaire, c'est aux sources même du parlementarisme.
Alors, il y a effectivement ce que vous rappelez, la loi, et puis il y a aussi l'impression que tout cela laisse sur les électeurs. Or, François Fillon lui-même, après avoir parlé du général de Gaulle, d'ailleurs vous lui aviez conseillé de cesser de parler du général de Gaulle, il avait dit « Mais il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable ». Il avait dit ça à La Baule. Est-ce qu'il n'est pas rattrapé justement parce qu'il a voulu donner des leçons de vertu à l'ensemble de la classe politique et que finalement, bon, il n'y a peut-être pas de délit,
Bon, alors, non. Aujourd'hui, il est présumé innocent.
Oui.
Et moi, je lui fais confiance.
Mais c'est pas là où.
Donc,
les...
on va pas commencer à supputer sur ce qu'il aurait dû faire ou pas faire. C'est le principe. Et moi, ma responsabilité, c'est d'être attaché à un certain nombre de
mais
principes.
Il a montré qu'au minimum, il était intéressé. Voilà, c'est tout. Je dis pas qu'il y a un délit. Il n'y a pas de délit pour le moment, effectivement. Ça, vous avez
tout à fait raison. Les magistrats indépendants.
Mais vous pensez pas qu'au-delà de la loi.
À charge et à décharge.
Vous pensez pas
qu'au-delà
de la loi.
On va se transformer en cabinet de juge d'instruction.
Mais vous ne pensez pas qu'au-delà de la loi, il y a un problème tout simplement d'ordre moral. D'ailleurs, lui-même s'en est excusé auprès des Français.
Bien sûr.
Donc il y a bien quelque chose.
Et j'ai bien entendu ce qu'il a dit. Voilà pourquoi. Pour ma part, j'ai d'ailleurs été élu au Sénat avec la volonté de rendre le fonctionnement de notre Assemblée à la fois rendant des comptes, ce qu'on appelle la transparence, en responsabilité, quand j'ai demandé aux parlementaires, et c'est pas moi, c'est l'ensemble des présidents de groupe d'ailleurs, de toute sensibilité, quand on a pris la décision qu'il n'y avait pas des actes très importants comme le vote des grands textes, les explications de vote, le travail législatif en commission, que ceci nécessitait la présence, eh bien voilà ce que nous avons mis en place. Et j'ai d'ailleurs été élu sur ce projet-là. Et on ne l'a pas découvert, je n'ai pas fait mon petit Bourget à moi, je n'ai pas dit le contraire pour ensuite faire l'inverse.
S'agissant des premières révélations sur François Fillon, la presse a écrit que vous aviez été choqué et que même vous aviez réfléchi à aller le voir pour lui dire finalement, il faut jeter l'éponge.
Non, j'ai dit à un ami ce que je ressentais. J'ai dit à un ami que je souhaitais qu'il dise aux Français ce qu'il a fait. Mais moi, vous savez, un ami, je le soutiens parce que François Fillon, au-delà de sa personne, c'est le seul qui porte un projet d'alternance crédible pour ce pays. Et mon pays, ça passe avant tout. Et il n'y a pas d'autre projet crédible que celui porté aujourd'hui par François Fillon, après la primaire, après que ce projet se soit enrichi aussi des apports des autres candidats à la primaire.
Mais ces campagnes, elles sont quand même difficiles, avouez-le, et vous êtes obligé de boire le calice jusqu'à la lie de votre candidat.
Écoutez, moi, ce n'est pas mon style, le calice, première des choses. Et il y a rarement de lie au fond du calice. La nature du vin nous ramènerait à cela. Vous voyez que j'ai quelques connaissances théologiques, M. Brézé.
Alors, œnologiques.
Les deux. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous faisons campagne. Et François Fillon, dans le Val-de-Marne, a fait campagne. Il va le faire campagne cette semaine. Entre Meaux, lundi, le Salon de l'agriculture, la société civile, Nîmes. Ce que je voudrais simplement dire à cet instant, c'est que je constate que certains veulent l'empêcher de faire campagne. Tout comme on a empêché hier à Nantes Marine Le Pen de faire campagne. Je trouve ça, et chacun sait mes sentiments pour Marine Le Pen, je trouve ça inexcusable. Qu'est-ce qu'on dirait si des militants, des Républicains ou des militants centristes empêchaient M. Hamon de tenir une réunion ? C'est le temps de l'expression sereine, ce qui ne veut pas dire les oppositions, mais je crois que les casseroles ne remplacent jamais un débat.
Vous visez qui ? Vous pensez que c'est une manœuvre orchestrée par un parti politique ?
En tous les cas, je note que le Front de Gauche, je note que certains syndicats, d'ailleurs je leur exprimerai mon sentiment quand je verrai notamment M. Martinez dans quelques jours. Moi je suis attaché à la démocratie sociale, je leur demande d'être attaché à la démocratie politique.
Est-ce que vous trouvez normal que les magistrats s'intéressent également au Front National ? Il y a différentes enquêtes qui donnent lieu à des perquisitions ou à des mises en examen.
Écoutez, les magistrats s'intéressent, d'ailleurs avec plus de célérité pour certains que pour d'autres, mais enfin, ils s'intéressent, et c'est le fonctionnement normal de l'état de droit. Moi j'ai une boussole qui s'appelle l'état de droit, ça n'interdit nullement aux magistrats de faire leur travail. Je leur dis simplement, à ma notion de retenue.
Mais cette retenue dont vous parlez, que vous demandez pour François Fillon, elle vaut aussi à vos yeux pour Marine Le Pen ?
Bien sûr. Elle vaut demain si M. Macron avait des ennuis et d'autres.
Marine Le Pen ne s'est pas rendue à la convocation justement des policiers qui voulaient l'entendre. Est-ce qu'elle a bien fait? Et est-ce que François Fillon aurait pu faire de même?
Vous pas me demander de devenir l'avocat ou le procureur de Mme Le Pen.
Qu'avez-vous pensé de son attitude?
Je pense qu'elle aurait dû s'y rendre parce que dans un état de droit, ça fait partie des choses normales et des choses qui sont le fonctionnement de l'état de droit. C'est sa responsabilité et elle l'assumera.
Alors, mais elle dit quand même que justement parce que la période, c'est une période politique d'élection, que ne pas se rendre à la convocation, c'est ne pas rentrer dans le jeu des magistrats.
Et voilà pourquoi j'appelle à la retenue aujourd'hui. Nous sommes entrés à 54 jours, dans un temps où c'est la démocratie politique. Ce sont les Françaises et les Français qui vont choisir le président de la République. Ils vont le choisir le sachant et laissons-leur cette responsabilité.
Un autre événement est survenu cette semaine, qui est un autre coup embêtant, peut-être, pour François Fillon, vous allez nous le dire en tout cas, c'est l'alliance Bayrou-Macron sur la base de la moralisation de la vie politique. On voit bien que c'est François Fillon qui est visé avant toute chose, d'autant plus qu'il est l'adversaire numéro un d'Emmanuel Macron. Et est-ce que vous redoutez une fuite de quelques électeurs de la droite modérée vers Emmanuel Macron?
D'abord, c'est de la part de François Bayrou, je le dis avec respect parce que par nature, je respecte les hommes et les femmes. C'est d'abord une conversion, parce que au début de février, il voyait en Macron les grands intérêts financiers, il voyait à la fois le projet de Sarkozy et de l'autre côté, la continuité d'un Hollande relooké. En fait, s'il avait voulu défendre ses propres idées, il devait se présenter. Le vrai courage, c'était d'être candidat à l'élection présidentielle. Oui,
vous savez, vous dites ça maintenant, mais à l'époque, vous disiez c'est pas la peine qu'il se présente, il vaut mieux qu'il se présente.
J'ai rien dit de tout ça, moi. Et quand j'écrirai mes mémoires, je pourrai raconter des choses, mais le temps sera passé.
Pourquoi vous l'avez appelé, François Bayrou, c'est ce que vous racontez.
Le temps sera passé. Mais autour de quoi? Est-ce que c'est une véritable alternance? Je parle des quatre conditions de M. Bayrou. Avec Macron, la véritable alternance, en fait, c'est Hollande relooké. Est-ce que c'est un vrai changement pour mieux rémunérer le travail? Je ne vois rien dans le projet de Macron sur ce sujet. Et surtout, c'est la proportionnelle pour les députés.
Oui.
C'est le sujet majeur, c'est le sujet d'appétence. Et donc, moi, personnellement, j'y suis défavorable. Croyez-vous qu'on va réconcilier les citoyens avec leurs parlementaires députés en faisant tomber la circonscription, la relation personnelle qui existe entre un ou une députée et les citoyens qui ont le territoire dans lequel le député est en responsabilité? Je le dis, ceci remet en cause un des fondements de la Ve République.
Mais est-ce que vous comprenez le désarroi des électeurs de droite, de certains des électeurs qui, voyant Macron monter dans les sondages, le voyant même dans de nombreux sondages en duel avec Marine Le Pen au second tour, se poser la question dès maintenant de savoir ce qu'ils feront dans l'entre-deux-tours?
Je note que le socle de François Fillon reste un socle solide. Celui de Emmanuel Macron était un socle moins solide. Peut-être va-t-il temporairement un peu se consolider par l'arrivée de François Bayrou. Mais on a 54 jours, on a le temps du débat, on a le temps des projets. Et je vais vous dire ma conviction, François Fillon sera au deuxième tour de l'élection présidentielle.
Mais François Bayrou dit, quand il rejoint Emmanuel Macron, au-dessus de tout, il y a la moralisation de la vie politique. J'exige de Emmanuel Macron une loi de moralisation. Et finalement, il nous dit, c'est le principe supérieur qui doit maintenant gouverner le vote des électeurs. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Que ce qui importe d'abord pour les Français, c'est deux sujets, l'emploi et la sécurité. Est-ce que le sujet numéro un, c'est pas trois chiffres terribles? 6 millions de Français éloignés de l'emploi, plus ou moins, certains très éloignés depuis très longtemps. Est-ce que c'est pas 9 millions de pauvres? Est-ce que ça n'est pas près de 25% de jeunes au chômage? Ce qui ne veut pas dire que les questions de transparence ne soient pas importantes. Je voudrais rappeler le dossier de M. Cahuzac ou d'autres dossiers. Ceci est important. Si j'ai fait ce choix à la présidence du Sénat, c'est parce que je pense que c'est important. Mais ce matin, Je crois que c'est votre confrère Le Point, sortez les salaires des stars, y compris de certaines stars de l'audiovisuel qui mettent en pièce les politiques tous les soirs. Et quand je regarde leurs salaires et les indemnités des parlementaires, je me dis qu'on a encore une marge de manœuvre. Alors, je vous le dis, si je suis à nouveau président du Sénat, je dis à mes collègues, nous poursuivrons tranquillement, sereinement, ce travail de reconquête de la confiance avec les Français, mais pas sous la pulsion, pas sous l'émotion, parce que je crois que nous leur devons la transparence, mais pardonnez-moi, quand on veut faire de la transparence, il n'y a pas que les politiques.
Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir un volet de moralisation, là, dans le programme pour la présidentielle ?
Je ne dis pas qu'il ne faut pas de volet, puisque personnellement, c'est un sujet sur lequel je travaille. Peut-être reviendra-t-on sur la transparence pour le Parlement. Vous savez, depuis maintenant un an et demi, un groupe de travail qui est conduit par un questeur, Jean-Léonce Dupont, est en train de travailler sur ce que pourrait demain le statut des parlementaires dans ce pays, aussi bien dans la dimension de l'organisation que dans l'organisation matérielle. Et quand je parle matériel, je parle de fiscalité, je parle de tout cela. Nous attendons les nouveaux députés et nous leur ferons des propositions dès le mois de juin.
Le système de retraite, le nombre de députés, le nombre de sénateurs.
Bien sûr, tout ça, on a tout.
Vous avez tout.
Eh oui. Eh bien, alors, vous le sortez quand même, il faut le sortir.
Mais quand les députés vont être nés.
D'accord.
Eh oui. Je rappelle que leur date de nativité, c'est une date très importante pour un gaulliste, c'est le 10 juin.
Mais ça pourrait être dans la campagne de François Fillon.
Écoutez, en tous les cas, moi je porte cela, parce que je pense que c'est aux parlementaires de s'occuper des parlementaires d'abord. Car je suis aussi pour la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Ce qui m'a amené à saisir le Conseil constitutionnel il n'y a pas si longtemps, quand on voulait tout déléguer à la haute autorité, en matière notamment de ce qu'on appelle les groupes d'intérêt. On en était arrivé à l'aberration, ou à François Baroin, à ce que, par exemple, des associations d'élus ne puissent plus être entendues par des parlementaires. Je crois qu'il faut garder raison, qu'il faut rechercher la meilleure transparence possible, mais ne pas céder à une espèce de mode de nudité pour la nudité. Nous sommes là pour exprimer la démocratie, pour travailler pour notre pays, et c'est ça que nous devons avoir au cœur.
Puisque vous parlez de moralisation de la vie publique, est-ce que le cumul des mandats fait partie de cette moralisation ? On sait que vous êtes personnellement contre son interdiction. Pour les Français, ça fait partie de la morale publique. Qu'en pensez-vous ?
Je ne vois pas en quoi ça ferait partie de la morale publique.
Le fait de cumuler, donc du cumuler des avantages.
Je vais citer un exemple. J'aurais pu citer la mairie de Rambouillet. Mais je vais prendre la plus petite commune de mon canton, qui s'appelle Gambézeuil, superbe commune dans la forêt. Est-ce que le fait d'être sénateur-maire de Gambézeuil, peut-être qu'il n'en a pas envie, ou je suis en train de susciter une vocation, ferait qu'il serait amoral ou immoral ? C'est autre chose. La moralité, ça n'est pas ça.
Et on parle de
la moralité, d'abord,
c'est
une affaire personnelle. Je rappelle que c'est... Mais on peut avoir une société morale, mais méfions-nous des sociétés morales.
Et sur cette affaire
Nous savons comment ça se termine en général.
De cumul, il y a une loi qui prévoit que ça va être interdit, et François Fillon a dit, nous allons appliquer cette loi.
Oui.
Et vous, c'est pas tellement votre...
C'est pas tellement, j'ai accepté de travailler avec d'autres collègues sénateurs dans un groupe institutionnel pour que nous réfléchissions qu'est-ce que sera demain le Sénat avec l'application de cette loi, avec notamment le lien... Et ça me renvoie à la proportionnelle aussi, car 75% des sénateurs sont élus à la proportionnelle. Le lien entre le territoire, les élus du territoire et les sénateurs.
Vous espérez
c'est
toujours
pas une réflexion mince.
Vous espérez toujours convaincre François Fillon de revenir sur
Je n'ai pas à coin, il a tranché.
D'accord.
Et moi, je suis aux côtés de François Fillon et j'ai accepté cette décision.
Monsieur Larcher, il n'empêche que Emmanuel Macron, cette semaine, il a enregistré le ralliement de François Bayrou, il a exposé son programme économique, et il dit voilà, ça y est, maintenant je suis le candidat qui va pouvoir gagner l'élection présidentielle. Ça vous paraît abusif ?
Je ne connais aucun candidat qui se présente pour dire je veux perdre l'élection présidentielle.
Il y va carrément, et il y a un mouvement autour de lui, c'est incontestable.
Justement, on parlait de mouvement, on parlait de Bayrou tout à l'heure, et Jean-Louis Borloo, vous connaissez bien Jean-Louis Borloo, vous êtes ministre à ses côtés, il rencontre François Bayrou, il dîne avec lui, je crois, ce soir. Emmanuel Macron, ce soir. Est-ce que vous pensez qu'après Bayrou, c'est Borloo qui va basculer ?
Écoutez, je n'ai pas l'agenda personnel de Jean-Louis Borloo, nous sommes souvent en contact, parce que nous réfléchissons à la société, parce que son projet pour l'Afrique est un projet qui personnellement m'intéresse beaucoup parce que je pense que, notamment au moment où les États-Unis sont en train d'abandonner le continent africain, le projet qu'il a de développement pour l'Afrique est un projet à la fois humain, mais un projet de paix et de paix civile autour du développement.
Et vous lui dites quoi, là ?
Je ne lui dis rien du tout, parce qu'il est grand garçon, et je leur souhaite bon appétit, mais on m'a dit que alors, peut-être l'appétit serait pour un autre jour.
Alors, est-ce que vous souhaitez aux Français, est-ce que vous souhaitez aux Français bon appétit, puisque Emmanuel Macron, enfin, en tout cas, à 80% de Français, Emmanuel Macron leur promet qu'ils n'auront plus à payer la taxe d'habitation.
Oui, ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui n'a pas l'expérience territoriale. Et j'aurais rappelé ce que François Baroin, comme président, André Léniel, ont dit hier. André Léniel est socialiste. Nous avons une association pluraliste. Ils ont dit, c'est une mesure non financée. 10 milliards.
Macron dit que c'est l'État qui paiera.
Mais bien sûr, 10 milliards. 10 milliards. Et on sait comment l'État paie. Mmh. On a une quelque expérience. Comme j'ai quelques mandats de maire derrière moi, ça paie toujours la première année, moins bien la deuxième. Et 5 ans après, ça oublie de payer. Deuxièmement, vous êtes sur un problème de liberté locale. C'est un point très important. Vous êtes sur une des taxes qui permet à une municipalité, à un conseil municipal, à une intercommunalité de se préoccuper de développement, de services publics, de solidarité. Et puis quand même, c'est un peu une mesure démago. Déjà, aujourd'hui, plus de 40% bénéficient de dégrèvements ou d'exonérations pour revenus extrêmement modeste, notamment dans le logement social. Donc je crois qu'il faut être raisonnable. C'est typiquement la mesure démago qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu présidentiel. En même temps, puisque je crois que le 22 mars, il y a un rendez-vous avec les maires de France, M. Macron aurait pu avoir la décence d'attendre le débat avec les maires de France. C'est une manière de décider qui ne m'apparaît pas comme une manière normale, moderne et transparente.
Mais c'est une mesure.
Comment faire la France demain sans les 500 000 élus locaux qui en sont la maille profonde? Ce pays va mal, ce pays est en désarroi, il a besoin de ses élus locaux, et voilà qu'on décide, en lieu et place de ses élus locaux, sans même les consulter, on décide de supprimer une des taxes très importante, qui donne d'ailleurs de la liberté aux communes.
Mais il y a des abus quand même, parfois, dans ces
quels
taxes.
Quels abus ?
Ben, quand on voit les montées des taxes d'habitation durant ces dernières années, dans certaines villes, ça devient
phénoménal. Écoutez, ce sont les électeurs qui tranchent éventuellement les abus. Et ce sont les électeurs qui tranchent. Pourquoi ? Ce serait bien d'un côté qu'il y ait la démocratie politique, et pourquoi de l'autre côté, il y aurait une espèce de technocratie qui déciderait en lieu et place des élus. Faisons confiance aux élus. Moi, je fais confiance aux élus. Vous savez, quand les choses vont mal, le lendemain du Bataclan, par exemple, les gens se posaient vraiment des questions. Ils sont tournés vers leur maire, vers leurs élus municipaux. Et d'ailleurs, la récente étude de l'Institut d'études politiques, le CEVIPOF, les seuls élus qui ont encore la confiance majoritaire des Français, ce sont les maires adjoints, les conseillers municipaux. Faisons attention à les respecter.
Pour autant, vous ne voyez pas la nécessité dans cette campagne de faire un geste fiscal en direction des classes moyennes pour dire qu'il faut baisser les impôts.
C'est autre chose.
Macron,
ne le faisons pas sur le dos de ce qui reste de liberté aux communes et aux intercommunalités.
Mais vous dites qu'il faut quand même...
La commune, c'est la cellule de base de la démocratie.
Non, mais les électeurs, ils regardent
la porte. Chacune des communes, c'est une petite république dans la grande. Pardon ?
Qu'est-ce qu'on peut baisser comme impôt, alors ?
Écoutez, il y a des réflexions qui sont en cours. Vous entendrez M. Fillon dans quelques temps parler. Parce que, naturellement, la question de la classe moyenne, c'est celle qui a été flinguée par M. Hollande. D'ailleurs, sur un projet de M. Macron. Donc, il faudrait quand même qu'on se remette d'accord. Quels sont les inspirateurs ? Et voilà que les inspirateurs, eux-mêmes, font des conversions à 180 degrés. Allez, soyons sérieux. Ce pays, il a besoin de moins de dépenses publiques, nous le savons. Mmh. Il a besoin d'une dépense publique qui soit supportée de manière équilibrée. Je constate que pendant le quinquennat de M. Hollande, c'est d'abord les collectivités territoriales qui ont porté l'effort, beaucoup plus que l'État et beaucoup plus que la sécurité sociale. Alors je veux bien qu'on continue sur le dos des collectivités locales, mais allez, disons-le, on n'a plus besoin des communes, on n'a plus besoin des intercommunalités, on n'a plus besoin des départements.
On vous parle des contribuables, là, M. le Président.
Mais les contribuables sont d'abord des citoyens dans un territoire.
Oui, mais
naturellement, le territoire doit respecter leur capacité contributive, mais citoyen égale contribuable, c'est une vision raccourcie. Ce sont des hommes et des femmes qui vivent un projet commun.
D'accord.
C'est d'ailleurs le mot commune.
Mais on a cru comprendre quand même que vous étiez pour un geste sur la fiscalité, sur de baisse de la fiscalité.
Je suis pour un geste, d'abord, de ne pas faire supporter aux seules collectivités territoriales.
Ça, oui, ça,
mais,
ça.
Attendez, c'est un point important parce qu'elles ne peuvent pas non plus s'exonérer de l'effort de la réduction des dépenses publiques.
La TVA. Qu'est-ce que vous leur dites aux classes moyennes?
La TVA, parlons-en. François Fillon a maintenant choisi que seule la TVA normale aurait plus de points. Ni la TVA intermédiaire, ni la TVA. Et nous voyons qui pèse sur les classes moyennes.
On passerait de 20 à quoi, 22 ?
Oui. Ah ben oui, plus de points. Plus de points. En même temps, il allège les charges sociales sur les salariés. En même temps, il fait un effort pour les petits retraités. Il l'a annoncé il y a maintenant 3 semaines. Et il fait un effort sur les pensions de reversion. Et je dois dire qu'il y a déjà une somme d'efforts extrêmement importante. Mais le vrai projet, c'est quoi ? Le vrai projet, c'est de retrouver le chemin de l'emploi, donc de la croissance, donc de faire confiance à l'entreprise. Quand François Fillon dit « je baisse de 50 milliards », donc 40 milliards les charges sur les entreprises et 10 milliards les impôts sur les ménages, il fait le choix de l'avenir du pays et de l'emploi dans ce pays. C'est un choix courageux, c'est pas le plus porteur. On préférait distribuer comme ça. Mais le seul changement de logiciel politique, c'est François Fillon qui le porte.
Oui, encore une question, Alexis Brazet. Il nous reste une minute avant.
La question, c'est que Macron aussi dit je vais baisser les dépenses, je vais baisser les impôts. C'est quoi la différence ?
Ben 40 milliards déjà, quand vous prenez les deux colonnes. En matière de fiscalité sur les entreprises, 40 milliards côté Fillon, 10 milliards côté Macron. Rien pour les familles dans le projet de Macron. Et la famille, dans sa diversité. Car j'insiste aussi sur la famille monoparentale, qui est une réalité de notre pays, qui est une famille à la fois qui mérite autant d'attention que toutes les familles. Eh bien, je dois dire que vous avez un projet de François Fillon attentif aux hommes et aux femmes, mais qui a fait de l'emploi la première priorité, parce que si demain, nous ne dégageons pas de croissance, donc de recettes réelles, alors notre modèle social, il se volera en éclats.
On marque une pause pour les informations de 13h et après on parle de votre rôle de pacificateur dans le conflit qui oppose les syndicats à François Fillon.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Gérard Larcher, président du Sénat et soutien de François Fillon. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle.
Gérard Larcher, on parle de votre rôle donc auprès des syndicats. Et là, il y a du boulot, hein, parce que pour arriver à se mettre d'accord avec eux sur la retraite à 65 ans, la disparition des 35 heures, 39 heures dans les entreprises qui pourraient n'être payées que 35 éventuellement, la priorité au dialogue dans les entreprises plutôt que le respect de la loi. Bref, ça se passe bien quand vous les rencontrez ?
Je rappelle que l'objectif de François Fillon, c'est la création d'emplois. Je rappelle aussi qu'il est celui qui parle le plus clairement de l'importance et du rôle du dialogue social. Je rappelle en même temps qu'il est, et c'est une vraie différence avec Macron et d'autres, il continue à croire au paritarisme, notamment pour la gestion de l'assurance chômage. Alors, à partir de ça, il y a des choses claires. Le temps de travail, ça fait partie du projet de François Fillon. La fin de la durée légale à 35 heures. Deuxième des choses, et c'est un point important, la retraite à 65 ans, bien sûr en prenant en compte les carrières longues et certaines formes de pénibilité, c'est le projet de François Fillon. La troisième des choses, c'est que la simplification du contrat pour éviter cette forme de détournement qui sont les CDD très courts, qu'on appelle la permittence, donc un contrat de travail sécurisé pour l'entrepreneur comme pour le salarié, c'est le projet de François Fillon. La fin des seuils tatillons, c'est dans le projet de François Fillon. Tout cela fera l'objet d'un projet de texte à l'été si François Fillon est président de la République. Et moi, je souhaite que les partenaires sociaux soient informés avant et non pas comme ils l'ont été au cours de ce quinquennat, parfois par la presse, avant d'avoir été concerté.
Donc, c'est loin,
voilà.
Donc le projet de loi, il sera prêt avant la présidentielle, s'ils doivent être informés avant.
Il sera prêt avant la présidentielle. Il appartiendra au candidat François Fillon de le faire connaître comme il l'entendra.
Adopté par ordonnance.
Mais nous aurons, bien sûr, c'est sans doute la voie.
Par ordonnance.
Oui,
c'est quand même une, ça,
comme
c'est
président,
une évolution.
Comme président d'une des deux chambres du Parlement, notamment depuis la réforme des ordonnances, ceci n'ampute pas le Parlement d'une capacité dans l'habilitation, puis ensuite, à la fin, d'intervenir
mais ça, c'est,
sur
c'est
les textes.
Enfin, sauf si je me trompe, c'est quand même une inflexion, c'était pas dans l'idée initiale
c'est
de François Fillon.
C'est une suggestion que nous lui avons faite un certain nombre.
Il a dit d'accord.
Parce que je pense que c'est aussi ce que les partenaires sociaux attendent. Par contre, il renvoie beaucoup de choses au dialogue social, et notamment le sujet essentiel, qui est le sujet de l'allocation chômage. On a une UNEDIC qui, dans moins de deux ans, aura 40 milliards de déficit cumulé.
Sa proposition, de dégressivité, ça passe pas.
Oui, oui. Hein,
et même au patronat, certains disent que c'est inutile.
Parlons des choses autrement que par les pulsions de M. Sobo, par exemple.
C'est le patron représentant
du MEDEF. Pourquoi faut-il renégocier l'assurance chômage? Parce qu'on a oublié que l'objectif numéro un de l'assurance chômage, c'était de permettre le retour à l'emploi. On n'en a fait qu'une espèce de caisse distributeuse. Première des choses, le retour à l'emploi. La deuxième des choses, au-delà de ce retour à l'emploi, c'est qu'il va bien falloir financer des formations qui facilitent le retour à l'emploi et réfléchir à un plan global où les régions vont jouer un rôle extrêmement important. Parce que tout ça, c'est du sérieux. La dégressivité, à l'exception de l'Allemagne qui a fait un autre choix, les pays d'Europe du Nord et d'Europe du Sud ont choisi la dégressivité. Pourquoi l'Allemagne? C'est parce qu'ils ont raccourci l'indemnisation à 12 mois et à 18 mois dans certains cas.
Donc ça se discute, la dégressivité, ou c'est une volonté?
Mais la dégressivité, elle va se discuter. Est-ce que vous croyez que les partenaires sociaux ne sont pas capables de faire comme ils l'ont fait pour l'AGIRC et l'ARCO pour la situation des retraites, c'est-à-dire de dialoguer? On leur donnera un délai conformément à une loi que je connais bien,
sur le dialogue, la modernisation du dialogue social.
De quelques mois, ils devront faire des propositions, sinon c'est le Parlement qui
sera... Mais le principe de la dégressivité,
on change
maintenu.
Pas.
Le principe de la dégressivité est naturellement là-dedans.
Les 39 heures dans la fonction publique, ça, vos interlocuteurs syndicaux, ça les emballe pas totalement?
Vous dire que ça transporte Force ouvrière et d'autres serait sans doute une vision macronienne du mysticisme. Mais je pense qu'il y a un principe d'équité dans ce pays. 35 heures, c'est la fin de la durée légale aujourd'hui. Donc, que dans la fonction publique, de manière progressive, on passe à 39 heures, de manière progressive et adaptée à chacune des fonctions publiques.
Alors voilà.
Parce que, par exemple, dans la fonction publique hospitalière, dans laquelle François Fillon s'est clairement exprimé, l'idée, c'est de passer progressivement aux 39 heures, mais en même temps de ne pas baisser le nombre de soignants au lit du malade.
Donc
c'est pas simplement monétaire, c'est aussi une forme d'organisation. C'est la négociation. Je vous rappelle que le principe du dialogue social...
Mais il y aura une compensation salariale ?
Mais bien sûr, il y aura une compensation salariale.
Donc c'est pas 39 heures,
mais 35. Dans la négociation, de même dans les entreprises.
Voilà.
La force, c'est la négociation, au niveau de l'entreprise, au niveau des branches, et dans chacune des fonctions publiques, avec une liberté sans doute donnée aux fonctions publiques territoriales.
Au niveau de l'entreprise, les syndicats vous disent, mais il y a des entreprises où on n'est pas présent, où finalement la pression patronale est tellement forte qu'on sait bien comment ça va se terminer.
Mais il y a la branche.
Oui, mais alors, dans quel cas l'entreprise...
Et il y aura le référendum pour trancher.
Mais le référendum, eh ben, sur Smart, par exemple, les syndicats vous disent, ben, écoutez, les pauvres ouvriers, ils ont été obligés de suivre le vote des cadres.
Non, ils ont été obligés de suivre l'avis du syndicat majoritaire qui était la CFTC chez Smart avec l'entreprise. Alors, c'est pas une fois quand ça nous arrange, on est pour le référendum, une fois quand ça nous dérange, on est contre le référendum.
Le recours aux ordonnances, est-ce que c'est parce que, comme vous l'auriez dit, on aura un président faible et que donc le président
faible
devra gouverner avec force?
Je voudrais savoir l'exégèse de votre citation.
C'est pas la presse qui reportait. On aura un président faible, il faudra donc un premier ministre fort. Mais on pourrait dire et des ordonnances.
On aura un président légitime qui aura un gouvernement légitime, qui aura reçu l'appui du Parlement et il aura été élu en disant tout, c'est-à-dire pour faire des réformes et changer de logiciel. Bien,
au passage, le Premier ministre légitime, ça pourrait être François Baroin qui est présent là aujourd'hui.
Alors je ne vais pas vous donner, Olivier Mazerolle, une petite leçon de 5e République. C'est au président de choisir le Premier ministre. Il le fera le moment venu en prenant en compte les intérêts du pays.
Le Premier ministre fort, ça pourrait être lui quand même.
Il y a plusieurs premiers ministres forts. Ce n'est pas qu'une affaire de poids. Voilà.
Ce n'est pas qu'une affaire de poids. Alors justement, puisque vous parlez de poids, est-ce que, comme vous restez quand même assez ferme à propos des propositions de François Fillon concernant les relations avec les syndicats, vous misez sur quoi pour les adoucir ? Sur votre rondeur, sur votre capacité à dire les choses de façon aimable ?
Pas sur ma capacité à leur dire les choses aimables, à leur dire la vérité, à les écouter, à les entendre. Il y a un certain nombre de sujets, y compris sur lesquels j'ai des positions parfois un peu différentes de celles que François Fillon a annoncées. La fin du monopole syndical.
Alors ça, c'est le truc qui énerve terriblement les syndicats.
Oui, mais pas que les syndicats. Est-ce que vous voulez des syndicats communautaristes demain à la RATP ? C'est une vraie question. Est-ce que vous voulez... C'est pas rien des syndicats populistes. C'est quand même une vraie question. Moi, je ne le traite pas d'un revers de main. C'est peut-être l'expérience que j'ai eue comme ministre du Travail. Et c'est une vraie question. Et j'en ai fait rapport à François Fillon. Parce que je pense que c'est la fin d'un processus, mais pas le début d'un processus, la fin du monopole syndical.
Il serait prêt à revenir donc sur cette proposition qui est de supprimer le monopole
syndical. Je l'ai dit publiquement et je
l'assume. Non, mais lui, est-ce qu'il est prêt à l'assumer ?
En tous les cas, il m'a confié le soin d'en reparler dans le deuxième round. Et quand on va au deuxième round, c'est qu'on n'a pas été mis KO au premier round.
Le deuxième round qui est en cours.
Donc, qui a commencé la semaine dernière et qui se terminera le 15 mars.
Avec M. Martinez
Avec tout le monde.
Mais le round est particulier avec M. Martinez ?
Mais non, le round, il est avec chacun. Vous savez, j'ai beaucoup de respect. Et vous ne parlez que des syndicats de salariés. Il faut aussi parler des organisations professionnelles, des entreprises. Parce qu'on oublie, c'est Churchill qui disait ça, c'est quand même eux qui tirent le char. Et pour tirer le char de la France, on a besoin des chefs d'entreprise. On a besoin de leur confiance. Et donc, avec les chefs d'entreprise, nous discutons de cet ensemble et de ce projet. Et parce que l'entreprise aura un rôle très particulier dans la négociation. Il faut que les chefs d'entreprise soient aussi des gens qui acceptent le dialogue social, et ça se prépare.
Vous avez parlé de vos différences ou d'inflexions par rapport au projet initial de François Fillon en citant la suppression du monopole syndical, il y en a d'autres ?
Il y a la modernisation du contrat emploi-formation, qui me semble extrêmement important pour que ça ne soit pas une espèce d'usine à gaz, mais une capacité très vite. Et j'insiste sur le retour à l'emploi, parce que l'obsession, ça doit être ça. L'obsession, c'est pas de distribuer des allocations chômage pour ensuite être dans une allocation de type RSA. L'objectif, c'est que un maximum d'hommes et de femmes retrouvent l'emploi dont on sait tous qu'elle est un élément, en dehors d'apporter du revenu, un élément de dignité.
Mais qu'on comprenne bien,
et pour moi, ça fait partie de mon projet de société.
C'était quelque chose qui n'était pas prévu ? C'est une nouvelle proposition ?
C'est une proposition qui s'enrichit de ce qui était proposé et de ce qui était vécu. Et il y en a une troisième. Alors là, j'ai un petit débat. C'est... Aujourd'hui, le compte pénibilité est immaniable. Il est impossible.
Trop compliqué.
Il est trop compliqué, d'ailleurs. Allez, un certain nombre de partenaires représentant les salariés le reconnaissent.
Mais vous avez dit tout à l'heure, il faut tenir
compte. Mais en même temps, quand on fait un travail posté pendant des années, quand on connaît sur un certain nombre de travaux des critères de pénibilité, on ne peut pas l'ignorer. Alors... Et d'ailleurs, c'est le problème des carrières longues, et c'est le problème d'un certain nombre de carrières. Et d'ailleurs, les entreprises et les salariés se rejoignent sur ce point. Il faut qu'on trouve la voie et moyen de reconnaître certaines pénibilités sans créer des régimes spéciaux, et en même temps, dans la simplicité. Parce que je vois ici l'ancien président des chambres d'agriculture. Il faut regarder ce que c'est qu'un compte pénibilité pour un chauffeur de tracteur en fonction de la dureté de la terre.
Mais
il faut aussi qu'on soit raisonnable.
Dans l'exposé des motifs, j'ai l'impression d'entendre François Hollande. Il ferait ça très bien comme vous, il dirait les choses, mais après on se demande quelle est la solution.
Ah, il n'avait pas dit les choses au Bourget, j'en ai pas un souvenir suraigu.
Mais dans l'exposé des motifs, où d'un côté on peut faire ceci, mais de l'autre côté il faut tenir compte.
Mais bien sûr, parce que que le dialogue, c'est deux.
D'accord, mais quelle est la solution ?
Et à un moment, trouver la capacité de décider, Ça, c'est la responsabilité de la démocratie politique, c'est la responsabilité du président de la République, du gouvernement et de la majorité parlementaire. Mais écouter d'autres avis n'a jamais fait de mal en démocratie.
Donc, dans le projet de loi que vous évoquiez tout à l'heure, il y aura quelque chose sur la pénibilité.
Je proposerai...
Ce qui n'était pas dans la version initiale du projet de François Fillon.
Non, mais qui était déjà dans mon conclusion de premier round.
D'accord.
Vous voyez, je me dévoile. Mais pourquoi ? Parce qu'avec les partenaires sociaux... On a besoin de discuter. Leurs propositions ne sont pas toutes à considérer avec mépris, bien au contraire. J'ai un certain nombre de propositions qu'ils nous font pour que, notamment, le dialogue social soit quelque chose de vivant, que ça ne soit pas un psychodrame. Notre pays adore les psychodrames. Notre pays veut toujours passer par des parties de bras de fer. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un dialogue social apaisé sur la base d'un projet ? Qui est le projet du président de la République ? Et quand François Fillon présentera ce projet, s'il est président de la République, et je crois qu'il sera président de la République, eh bien nous le mettrons en œuvre.
Christophe Jacobicine. Alors un autre dossier sur lequel vous n'avez pas forcément été en première ligne, mais vous allez sans doute nous éclairer, c'est l'assurance maladie, la sécurité sociale. François Fillon a revu son ordonnance aux Français. Il n'y a plus la séparation entre les gros risques et les petits risques. Mais il y a toujours 20 milliards d'euros d'économies à faire pour pouvoir notamment financer d'ailleurs de nouveaux risques. Il a parlé notamment par des lunettes pour enfants, mais où est-ce qu'on trouve ces 20 milliards ? Ça, j'avoue que Olivier Alexis, on a bien regardé, on ne trouve pas où vous trouvez-vous ces 20 milliards d'économies ?
Ces 20 milliards d'économies, c'est la meilleure articulation entre sécurité sociale et complémentaire, qu'elle soit mutualiste ou privée.
Il y a bien
Je rappelle simplement que la gestion des seules assurances complémentaires, c'est 14 milliards d'euros. Mmh. Deuxième des choses, depuis longtemps, les rapports se multiplient sur les soins inutiles. Troisième des choses, est-ce qu'il faut demain tout hospitalo-centré ? J'ai été président des hôpitaux publics de ce pays pendant 8 ans. Nous savons que ça n'est pas la bonne réponse. Que introduire le parcours de soins réellement, donner la place qui convient à la médecine libérale, mais aussi au rôle du pharmacien, au rôle des infirmières. Tout ceci est extrêmement important. Et 20 milliards, ça m'apparaît un objectif réaliste. Ça veut dire l'autonomie aussi des hôpitaux, parce qu'aujourd'hui, un directeur d'hôpital, en fait, je suis à la source, comme président de la FHF, de la création des agences régionales de l'hospitalisation, devenue l'ARS. Mais aujourd'hui, un directeur d'hôpital, en fait, il n'est qu'un capitaine par délégation de l'ARS. Aujourd'hui, il faut donner, c'était dans le rapport que j'avais fait à Nicolas Sarkozy en 2007, il faut donner de l'autonomie aux établissements hospitaliers et avoir une conception non idéologique. Madame Touraine et Monsieur Hollande, ils ont fait des groupements hospitaliers de territoires dans lesquels ils ont exclu la médecine libérale, dans lesquels ils ont exclu les cliniques privées, qu'elles soient à but lucratif ou à but non lucratif. Enfin, on a besoin de tous pour assurer la santé des Français. On a besoin de tous pour aller notamment sur notre immense faiblesse, la prévention et la réponse aux seniors. Voilà les deux faiblesses de notre système de santé. Mieux rembourser, c'est l'objectif que se donne François Fillon. Alors tout ce qu'on a entendu, François Fillon a reconnu qu'il y avait sans doute quelques maladresses. Mais on est à 76% de taux de remboursement aujourd'hui. Il n'est pas question de baisser. Il s'agit d'aller plus loin par une meilleure gestion.
Oui, non seulement il
c'est
dit
un objectif.
Il ne s'agit pas d'essayer, il dit même qu'il faut réduire à zéro le reste à charge.
Bien sûr,
oui,
d'ici là, 2022.
Ça coûte très cher.
D'ici 2022, c'est une autre organisation de la santé. C'est une organisation de la santé où on ne traite pas notamment les médecins. Il y a un autre sujet. Il y a ici le président du Conseil général de l'Eure. Il y a 3 fois moins de médecins généralistes dans l'Eure qu'il y en a dans le département des Yvelines. Est-ce que vous pouvez parler d'égalité ? Non ? Il y a un sujet sur lequel il faut apporter des réponses,
bah ouais,
les déserts médicaux.
Et alors, les réponses,
le gouvernement
bah, la réponse,
de
c'est quoi,
François
monsieur,
Fillon, à l'époque, qui a commencé par les maisons de santé pluridisciplinaires.
Bon,
c'est
ouais,
le numerus clausus dans un certain nombre de régions. C'est l'incitation à l'installation. Et il y a des choses à faire avec les maires, les communes, les communautés de communes et les départements. Voilà un vrai projet qui est mieux que de faire sauter la taxe d'habitation sans même les consulter.
De diversité de médecine, d'aller s'installer dans tel et tel département où il manque des médecins, par exemple. Certains candidats le proposent.
Je ne crois pas à la décision autoritaire. Je crois à l'incitation. D'ailleurs, Ah, c'est un souvenir qui va paraître archéologique, mais j'étais le jeune rapporteur de la loi dite Pasqua. Nous avions prévu, dans cette dernière loi d'aménagement du territoire, des mesures notamment fiscales, incitatives, pour l'installation de médecins. Mais on sait, par exemple, que dans le cursus des études médicales, sur les semestres de formation, on en consacre trop peu à la médecine générale et on en consacre trop peu dans les stages chez les généralistes. C'est comme ça que naissent les vocations.
Oui, on vient de passer en revue un certain nombre de thèmes. Il y en a d'autres, notamment les thèmes régaliens, la majorité pénale que François Fillon vient d'évoquer. Je voudrais avoir votre sentiment. Il reste deux mois, un peu moins de deux mois. François Fillon n'est pas le favori dans les sondages. Sur quoi il doit insister? Qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner?
Il doit présenter son projet aux Français. Or, pendant presque un mois, il a été empêché de présenter son projet aux Français. Voilà pourquoi j'ai appelé à la retenue. Voilà pourquoi aussi j'appelle, y compris ceux qui sont les adversaires politiques de François Fillon, à se comporter en démocrate. François Fillon, comme les autres, doit présenter son projet. Il doit continuer d'aller à la rencontre des Français. Et d'ailleurs, je vous raconte ça, mais nous y allons un certain nombre. Mais moi, je me suis lancé dans les réunions d'appartements pour François Fillon. Ça peut vous apparaître dérisoire, mais c'est ça, la rencontre directe avec les Français. Et nous en ferons des milliers et des milliers.
Mais ma question ne portait pas sur la méthode, c'était sur les thèmes. Est-ce qu'il faut insister sur ces thèmes sociaux dont vous venez de parler? Est-ce qu'il faut insister sur l'immigration, sur la sécurité?
Le logiciel de François Fillon, c'est la réponse aux deux préoccupations des Français, l'emploi, la sécurité. Il y a un troisième sujet qui m'apparaît extrêmement important, dont on n'a pas dit un mot, c'est la question de l'éducation. Parce que la question de l'éducation, elle tient en elle-même une grande partie de notre échec. Parce qu'une éducation qui génère chaque année 140 000 jeunes, hors de l'insertion professionnelle, hors de toute formation, elle génère un pays qui ne va pas aller bien. Qui ne va pas aller bien dans sa dimension économique, qui ne va pas aller bien, notamment dans son mental et dans son social. Et donc, cette question de l'éducation, je sais qu'elle n'est pas facile à gérer, mais je vais commencer par la formation professionnelle. Mmh. La formation professionnelle, elle doit être confiée aux régions en lien avec les entreprises. Et ça, c'est dans le projet de François Fillon. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un contrôle national pour qu'il n'y ait pas d'inéquité. Mais vous savez, on a tellement de formations qui ne correspondent pas au bassin d'emploi dans lequel on forme les jeunes. Et vous savez que la mobilité, ce n'est pas la première qualité des Français. Mmh. La deuxième des choses, c'est qu'il faut avoir une attitude qui permette aux jeunes de choisir suffisamment tôt leur orientation en ne continuant pas à présenter la formation professionnelle comme l'artefact de l'échec scolaire.
Ça veut dire remettre en cause le collège unique?
Ça veut dire remettre en cause le projet, notamment de Mme Belkacem actuellement, sur le collège. C'est accepter de revoir ce qui ne marche pas. Nos certitudes. Écoutez.
Donc une orientation plutôt.
Un chiffre. Raymond Barre demande à un jeune secrétaire d'État qui s'appelle Jacques Legendre. On est. En 1979, il constate qu'il y a 130 000 jeunes. Depuis, on a fini la réforme ABI. On a massifié le lycée. On a injecté beaucoup d'argent. On a un peu oublié l'école maternelle et l'école élémentaire, pour lequel, sans doute, elle devrait être le premier investissement de la réussite. Et on a 140 000 jeunes en dehors du coup. La démonstration, c'est qu'il faut accepter tous, collectivement, de remettre en cause cette question éducative. Pour moi, elle est fondamentale d'un pays qui doit reconstruire aussi sa citoyenneté.
À propos de jeunes, on voit qu'il y a des confrontations entre certains jeunes des quartiers, pas tous, avec la police. Comment voyez-vous la possibilité de faire en sorte que cette situation de confrontation, de sentiment d'hostilité qu'éprouvent certains, aussi bien du côté des policiers d'ailleurs à l'égard de la jeunesse qu'inversement, comment voyez-vous la possibilité d'améliorer cette question?
La semaine dernière, j'étais en Seine-Saint-Denis avec deux sénateurs, Philippe Dallier, Vincent Capo-Canellas, et ça flambait encore. Naturellement, la police doit le respect aux citoyens. Là-dessus, ma conception de l'État de droit ne transige pas. Mais en même temps, l'autorité de l'État ne peut pas être bafouée. Or, il y a des partis. Il y a des partis de la République dans lesquels l'autorité de l'État est bafouée. Ça, c'est inacceptable. Et donc, je sens une attente d'ailleurs très large des habitants de ces quartiers et de ces villes de la présence et de la force de l'État. Nous leur devons cela au titre même de notre conception de la République. Je pense que le premier des sujets, c'est quand même l'échec de nos politiques d'intégration, donc d'immigration.
Et ça
l'échec de l'école, ça c'est une réalité, et l'échec de la formation professionnelle, puisqu'on a des quartiers où le taux de chômage ou de non-insertion des jeunes, ce n'est pas 23 ou 24%, c'est 60%. Face à cette réalité-là, il y a urgence. Le seul qui est conduit, c'était sous le quinquennat de Jacques Chirac, c'est la rénovation urbaine de Jean-Louis Borloo, mais il ne suffit pas de refaire des quartiers pour avoir solutionné. Il faut aussi aider à reconstruire les hommes et les femmes et les générations dans ces quartiers. C'est de la rénovation humaine dont on a besoin après la rénovation urbaine. C'est cette rénovation humaine que nous devons conduire. Et moi, j'insiste sur la rénovation humaine, car dans le projet de François Fillon, on l'a trop souvent présenté comme une espèce de projet qui ne serait que financier ou économique. Il porte en lui la volonté d'une profonde rénovation humaine. Et moi, je le fais avec mes tripes de républicains. Je considère... Moi, je suis à 20 km de Trappes. J'ai pas envie que Trappes ou La Verrière, demain, ça soit des communes salafistes qui n'aient comme seule perspective que de vivre en dehors de la République. Pour moi, c'est une vraie priorité.
Il nous reste une quarantaine de secondes. Juste cette question qui nous change un peu. Hier, François Hollande a répliqué à Donald Trump qui avait dit « Paris n'est plus Paris ». Il a eu raison de le faire ?
Oui, ben, Monsieur Trump, il faudra qu'il cesse un peu les tweets, qu'il s'occupe de la responsabilité qui est la sienne, de présider la plus grande puissance du monde. Les États-Unis ont une responsabilité qui dépasse la seule frontière maximum. Mexicaine, pardonnez-moi, c'est pour lui la frontière maximum, paraît-il. En tous les cas, je pense que les États-Unis d'Amérique, ce sont nos alliés. N'oublions jamais que dans l'histoire, ils sont venus à nos côtés, ils nous ont jamais manqué, mais ils portent aussi un certain nombre de valeurs, et ces valeurs-là, nous devons les respecter ensemble. C'est des valeurs qui s'appellent le respect des hommes et des femmes. C'est le respect des plus modestes, c'est ce que nous portons ensemble, parce que moi, je crois en la République.
Merci Gérard Larcher, vous avez été l'invité du Grand Jury qui sera rediffusé ce soir sur LCI à 19h. Bon après-midi à tous.